est devenu très courant d'entendre une personne nous dire qu'elle est tombée amoureuse. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que ces mots signifiaient réellement? Quels sont les changements qui s'opèrent dans l'esprit des hommes et des femmes qui croient être tombés amoureux? Comment peuvent-ils savoir si cet amour est authentique? Pourraient-ils penser qu'ils sont amoureux alors qu'ils ne le sont pas vraiment? Que faut-il faire pour préserver la flamme de cet amour? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans notre émission « La famille aujourd'hui ». Au micro, Pascal Bardet qui vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission en compagnie de notre invité, le docteur Dobson, conseiller conjugal et familial. Aujourd'hui, nous aimerions nous adresser plus particulièrement aux adolescents, bien que les adultes seront probablement aussi intéressés par ce sujet. Alors, à vous qui êtes parents, pourquoi ne pas inviter vos adolescents et même vos préados à vous rejoindre pour écouter cette émission? Docteur Dobson, vous nous avez déjà expliqué comment reconnaître le véritable amour. Mais aujourd'hui, nous voudrions aborder ce thème du point de vue d'un jeune homme, d'une jeune fille.
Eh bien, Pascal, à dire vrai, la plupart des jeunes ne pourraient probablement pas répondre aux questions que vous venez de poser. En fait, il règne même une assez grande confusion parmi les adolescents concernant cet important sujet. Je suis convaincu que si le taux de divorce est si élevé, c'est en partie parce que les jeunes mariés n'ont pas bien compris en quoi consiste le véritable amour. Comment le reconnaître? Et comment décoder leurs propres émotions?
Aha.
Certains croient que l'amour romantique frappe parfois deux inconnus, au premier regard, comme un coup de foudre. On les imagine marchant sur le trottoir ou assis dans un lieu public et... boum ! Leurs yeux se mettent à sortir des orbites, leurs oreilles commencent à tinter et leurs orteils se recroquevillent. Ça y est, les voilà tombés amoureux.
Je connais bien ce sentiment-là, ça m'est souvent arrivé pendant mon adolescence.
Oui. Ah, je regrette de devoir affirmer une chose qui paraît aussi peu romantique, mais ce genre d'amour instantané est malheureusement un mythe.
Oh.
On ne peut pas aimer quelqu'un que l'on ne connaît pas, qui nous est totalement inconnu. Attention, je ne cherche pas du tout à nier que des sentiments très forts peuvent vous envahir la première fois que vous rencontrez telle ou telle personne du sexe opposé. Il est séduisant, elle est ravissante, vous aimez ses yeux, le ton de sa voix et l'assurance qui émane de lui vous charme. Tout en cette personne vous plaît et vous vous sentez fortement attiré vers elle. Depuis l'instant où vous l'avez rencontrée, vous pensez peut-être que vous êtes tombé amoureux d'elle. Mais en réalité, vous êtes tombé amoureux de son image. Comme d'un masque qui cache la véritable personne. Vous ne savez rien sur sa façon de penser, ses habitudes, ses ambitions, ses craintes, ses projets, ses aptitudes, ses capacités ou son éducation. Vous seriez peut-être bien incapable de déterminer si vous aimez cette personne dans sa totalité, puisque vous ne connaissez que son apparence.
Mais docteur, ces sentiments-là ne peuvent-ils parfois pas déboucher sur un amour authentique?
Oui, oui, quelquefois. Mais dans la plupart des cas, cet enthousiasme éphémère sera refroidi, évaporé, oublié en l'espace d'un an. Voilà pourquoi il est tellement dangereux de prendre des décisions pour la vie en se fondant sur des émotions aussi passagères. Il est difficile de faire la différence entre un feu de paille et l'amour véritable, parce que l'explosion émotionnelle que provoque un coup de foudre empêche une personne de raisonner clairement sur quoi que ce soit.
C'est sûr.
Mais en tenant compte de toutes les expériences qu'un être humain puisse vivre, il s'agit probablement de la plus exaltante. C'est encore plus fantastique que de surfer sur la crête des grandes vagues de l'océan Pacifique. Mais lorsque ce sera votre tour, souvenez-vous de deux choses. Tout d'abord, permettez-moi de dire que le coup de foudre est fortement égocentrique, c'est-à-dire centré sur vous-même.
Égocentrique, vraiment?
Oui, 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 oui. Je vous donne un exemple.
Oui.
Lorsque je faisais mes études à l'université, il y a bien des années maintenant, mes parents voyageaient constamment. Quand je n'avais pas de cours, je n'avais pas d'endroit où aller. En particulier, durant les mois d'été, je devais rester dans mon dortoir à l'université pendant que les autres étudiants partaient en vacances chez eux. Une fois l'été passé, j'étais impatient de revoir tous mes amis, et spécialement les filles.
Ah.
Et puisque je n'avais pas eu l'occasion de sortir avec aucune d'elles depuis la fin du mois de mai. Invariablement, à la rentrée universitaire, le 12 septembre de chaque année, je retombais amoureux de l'une d'elles, n'importe laquelle.
Mais vous m'étonnez, là.
Le même scénario s'est répété 4 ans de suite. Je ne pouvais plus dormir, ni manger, et encore moins étudier. Je partageais ma découverte avec mes camarades d'études et je leur disais « C'est extraordinaire d'être amoureux. Je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi fort dans ma vie. » C'était évident pour tout le monde. Je n'étais pas tombé amoureux d'une fille, mais j'étais tombé amoureux de l'amour.
Amoureux de l'amour ?
Oui.
Mais alors, comment peut-on faire la différence ?
Ne voyez-vous pas à quel point mon amour était centré sur moi-même chaque année au mois de septembre ? La jeune personne dont j'étais follement amoureux n'était qu'un trophée à arracher. Elle était généralement remplacée et même oubliée avant le mois de janvier. Le véritable amour est très différent du coup de foudre passager. Au lieu de se concentrer sur mes propres sentiments, le véritable amour se concentre sur l'autre personne. Il engendre un profond désir de rendre cette personne heureuse, de répondre à ses besoins, à ses désirs, et de protéger ses intérêts. Le véritable amour pourrait être décrit de la meilleure façon en disant que dans tous les domaines de la vie, il n'est jamais égoïste, même si cela demande un sacrifice personnel.
Oui, je vois la différence, mais quel était le deuxième point important que vous vouliez partager avec nos jeunes auditeurs concernant le coup de foudre ?
Si quelqu'un ne devait retenir qu'une seule chose importante de cette émission, c'est la suivante. Un coup de foudre ne dure jamais longtemps. Il ne peut pas durer simplement parce que les sentiments humains changent constamment. Même pour des gens qui s'aiment d'un véritable amour, il y a des moments où l'on est très proche, d'autres où on ne ressent pas grand-chose l'un pour l'autre, et il y a les moments où l'on est irritable et grincheux. Il est donc impossible à un couple marié de maintenir sa relation à l'intensité maximale du début de leur relation.
Mais pourquoi est-ce si important de comprendre cela ?
Eh bien parce qu'il y a des jeunes couples qui se précipitent dans le mariage avant même que leurs émotions n'aient jamais passé le test de la réalité ni atteint le creux de la vague. Ils vivent encore dans l'euphorie du jour de leur mariage. Et malheureusement, dans les mois qui suivent, un beau matin, ils se réveillent sans avoir ce sentiment exaltant au fond du cœur, et le choc est très dur. Il est alors bon de savoir que cette euphorie amoureuse peut facilement se transformer en une répugnance réciproque dans les mois qui suivent. Il est toujours surprenant de constater que ces malheureux jeunes couples qui se retrouvent au tribunal pour un divorce étaient tous persuadés au début d'être amoureux. Ils n'ont pas toujours détesté la personne qu'ils ont épousée. Il semblait même y avoir un temps où leur bonheur paraissait à toute épreuve, épargné à jamais de toute difficulté. Mais ces doux sentiments ont fondu comme neige au soleil, pour finir dans les égouts.
Il est bien évident que les jeunes devraient comprendre d'avance que chaque mariage aura son lot de conflits, qu'il soit fondé sur un amour véritable ou non.
Ah oui, oui, certainement, Pascal. Et même les personnes qui s'aiment vraiment ne sont pas toujours du même avis. Il leur arrive de ne pas être d'accord.
Oui.
Ils peuvent aussi devenir irritables, avoir des altercations ou même se quereller de temps en temps. Je vous donne un exemple typique de ce qui provoque souvent des conflits entre un mari et une femme, pourtant remplis d'amour l'un pour l'autre. Un père de famille rentre chez lui, exténué, après une mauvaise journée de travail. Son épouse l'accueille sur le pas de la porte, étant tout aussi fatiguée que lui. Les enfants lui ont mis les nerfs à fleur de peau. Sans attendre, elle lui annonce que le robinet a une fuite, qu'il y a de l'eau partout sur le plancher, que tout est allé de travers pendant la journée. Les conjoints sont maintenant tous les deux au bord de l'explosion. Ils bouillonnent. Dans ces conditions, c'est très facile, même pour des personnes qui s'aiment vraiment, de s'engager dans une altercation violente et de se disputer.
Sans aucun doute.
Sans compter qu'il existe des divergences de vues tout à fait légitimes sur des points importants. Ils peuvent ne pas être d'accord sur la façon de dépenser leur argent, sur le choix d'un appartement ou sur bien d'autres questions qui les divisent.
Évidemment. Mais malgré ces difficultés, il leur est sans doute encore possible de s'aimer profondément.
Mais absolument, absolument. Peut-être est-ce utile de souligner cela encore une fois. Je n'ai pratiquement jamais rencontré de ménage qui soit assez stable et harmonieux pour que le mari et la femme n'aient jamais ce genre de désaccord. Il faut vous attendre à bien des conflits dans votre mariage, même si vous êtes passionnément amoureux l'un de l'autre. Pour être plus précis, je dirais même que votre première année de mariage sera probablement la plus difficile de la première décennie que vous vivrez ensemble. Ce sera un temps d'adaptation très important. Vous aurez à décider du fonctionnement de votre mariage. Par exemple, qui de vous tiendra le cordon de la bourse ou qui décidera du lieu de vacances? Ces questions risquent d'échauffer vos émotions et de déclencher quelques conflits sérieux au sein de votre foyer.
Mais cela ne veut pas dire pour autant que le mariage soit condamné ou qu'ils aient fait une grosse erreur en se mariant ensemble.
Ah, certainement pas. Ce que je veux dire, c'est que tous les deux vont devoir faire des concessions et rechercher ensemble des solutions à leurs problèmes. C'est précisément là que se situe la grande différence entre un bon et un mauvais mariage. Tous les deux auront des moments de crise. Mais dans une relation saine, les époux chercheront ensemble des solutions et trouveront les moyens de se mettre d'accord parce qu'ils s'aiment d'un amour profond.
Oui, je comprends. Mais alors, comment définirez-vous un mauvais mariage?
Un mauvais mariage... C'est un mariage... où chaque conjoint s'aime plus qu'il n'aime véritablement l'autre. On y trouvera ce genre de réflexion. Je t'ai épousé pour que tu t'occupes de moi. Ou bien, je t'ai épousé parce que j'avais besoin de quelqu'un pour s'occuper de la maison. Ou encore, je t'ai épousé parce que j'espérais que tu gagnerais beaucoup d'argent.
C'est dur.
Ouais. Vous voyez, quand on se marie pour des raisons égoïstes, les désaccords ordinaires prennent des proportions inquiétantes. Ils ne reflètent plus de simples divergences d'opinion, mais ils deviennent des combats mortels. Chacun cherche à blesser l'autre, qui est devenu un ennemi acharné.
Il est évident que personne ne souhaite retrouver ce genre de tension dans son foyer après le mariage. Mais elles ne sont pas toujours faciles à éviter. Dans le cadre de la Fondation La Famille Aujourd'hui, nous prions pour les jeunes gens et les jeunes filles qui nous écoutent, pour qu'ils acceptent la sagesse des conseils présentés dans cette émission et qu'un jour, ils jouissent d'une relation conjugale pleinement épanouie et réussie pour la vie. Oui, c'est possible de jouir d'un amour pour la vie, mais uniquement lorsque les conjoints s'engagent non seulement l'un envers l'autre, mais aussi à faire réussir ensemble cette relation conjugale. Comme quelqu'un l'a très bien dit, l'amour ne s'achète pas clé en main, c'est quelque chose que l'on construit. Cela ne dépend pas des humeurs et des sentiments du moment, mais de la certitude que vous avez engagé votre volonté à rester ensemble, quoi qu'il advienne. La documentation qui a servi de base pour réaliser cette émission était tirée du livre du docteur Dobson, « Prépare-toi à l'adolescence », publié aux éditions Berekia. Hersh Kisfaloudi prêtait sa voix au docteur Dobson. Quant à moi, Pascal Bardet, je vous invite à nous rejoindre pour notre prochaine émission de La Famille Aujourd'hui.